enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Le retour de Jésus. Et nous avions, entre autres, vu toute une série de signes qui précèdent le retour du Seigneur. Chacun de ces signes nous rappelle que Jésus revient bientôt et donc qu'il nous fallait être prêts. Ce soir, j'aimerais toujours continuer dans le même sens, c'est-à-dire soyez prêts, prêts pour le grand départ. Parce que ce soit Jésus qui revienne et qui vous enlève, ou que ce soit vous qui quittiez cette terre et cela peut vous surprendre n'importe où, n'importe quand, il faut que vous soyez prêts à le rencontrer. Chers amis, n'importe quand, l'autre jour, samedi, on nous appelle tôt le matin, à 5h le matin, une famille qui demandait la prière. Malheureusement, je n'avais pas mon téléphone près de moi, je l'ai entendu que plus tard. Le papa s'est couché le soir, 65 ans, ils ont 9 enfants, dont le dernier a 3 ans. D'accord ? Eh bien, il se couche le soir, comme d'habitude, et à 4h du matin... c'était terminé. Il a quitté la terre. Nous avons, il y a 10 jours de cela, eu les obsèques de notre sœur Jeanne. Jeanne est allée se coucher le soir. Et puis le lendemain, quelqu'un a voulu venir chez elle. Elle ne voulait plus. Elle est aussi partie. Nous ne savons pas quand nous partons. Mais une chose est sûre. Nous partons et nous partons tous. Je vous garantis que d'ici 50 ans, 3/4 de cet auditoire ne sera plus. Hello. Dis à ton voisin, tu seras plus là. Cécile, à moins que tu sois comme Jeanne Calment, tu seras plus là. Et moi, dans 50 ans... même si je suis encore là, je ne sais pas dans quel état je serai. Hein. Je prêcherai autrement.
Comment ça va? Vous êtes prêts à rencontrer le Seigneur?
Ah oui. Dans 2 Timothée 4, versets 6 à 8, nous lisons. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, dira Paul, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. La vie, chers amis, n'est qu'un voyage. Qu'un voyage. Quel que soit ton âge ce soir, la vie n'est qu'un voyage. Qu'un passage, pour les uns, très court. En 20 ans de ministère, j'ai fait des obsèques, beaucoup d'obsèques. J'ai enterré des enfants, j'ai enterré des adolescents, j'ai enterré des jeunes gens, j'ai enterré des hommes de 30 ans, de 40 ans, de 60 ans, de 95 ans. Pour les uns, la course est longue, pour les autres, elle est courte. Certains font un 100 mètres, les autres un 1000 mètres, d'autres font un 10 000 mètres, d'autres font un marathon, mais un jour ça s'arrête. Un jour ça s'arrête. Et il nous faut être prêts. Tout voyage a un commencement et une fin. Et c'est ce que nous dit l'Ecclésiaste. Il dit il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour naître, chers amis, et ce temps, il est déjà derrière vous. La prochaine étape, c'est qu'il nous faut tous un jour nous préparer à partir. Pierre dit, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous êtes voyageurs, nous sommes tous des voyageurs. Je ris parfois, on parle des gens du voyage en parlant des tziganes, mais on est tous des gens du voyage. On est tous des gens du voyage. On passe. Aucun de nous reste. Et pourtant, lorsque je regarde la société dans laquelle nous sommes, j'ai parfois l'impression qu'on y bâtit, eh bien, un empire, comme si on devait y rester éternellement. On y bâtit des maisons, on fait toutes sortes de choses, comme si on devait demeurer éternellement. Non, mes amis, personne ne reste. Nous partirons tous. Alors, Paul dira une chose importante. Il dit avec beaucoup de lucidité, nous l'avons lu, « Le moment de mon départ approche. » Le moment de mon départ approche. Inexorablement. Jour après jour, le moment de votre départ, de notre départ, approche. Et vous ne pouvez pas arrêter le cours du temps. Il semble que quand Paul en parle avec beaucoup de paix. Le moment de mon départ approche. La vie n'est qu'un compte à rebours. Et le jour de votre naissance a marqué ce compte à rebours. Le jour où vous êtes né, le compte à rebours a commencé. Je vous l'ai déjà dit, c'est parfois intéressant, c'est amusant. Lorsque quelqu'un a un anniversaire, on va le féliciter. On lui dit, c'est super, tu as un an de plus. En réalité, il en a un de moins. Mais on lui dit pas ça. On lui dit pas, c'est super, tu as un an de moins à vivre. Ça, on lui dit pas, parce que, à quelque part, ça met le blues, hein. Alors, on lui dit, c'est super, t'as un an de plus. Non, t'as un an de moins. Qui va avoir anniversaire ce mois? Levez-moi la main s'il y en a un. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, vous avez un an de moins à vivre. Mais c'est ça, la réalité. C'est ça, la vérité. La vérité, c'est que la roue tourne. Nous avons nos calendriers éphémères. Vous savez ces calendriers, j'en ai un ce soir. Vous savez ces calendriers éphémères? Vous les connaissez? Chaque jour, il y a une date. Vous en faites pas, j'en ai pris un de 2007. Et puis, on lit ce qui est sur le calendrier. Et puis, une fois qu'on a lu, on prend la feuille. Et qu'est-ce qu'on fait? À la rigueur, on la laisse pour l'épouse qui suit, parce que souvent, je les rencontre aux toilettes, ces calendriers, c'est marrant, hein. C'est à peu près le chemin, le passage obligé pour chacun, donc on laisse la petite feuille. Il y a souvent un petit panier, vous savez, je suis observateur quand je rentre dans les maisons, hein. Petit panier, on le met, le prochain lit, et puis le soir, qu'est-ce qu'on fait? C'est fini, il ne vaut plus rien. Mais quand on a fait ce geste, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé une journée de notre vie? C'est une journée qui vient de passer. On l'aura plus jamais. C'est la dernière fois que vous l'aviez. Puis le lendemain, on recommence. Hop. Puis on recommence. Et puis c'est une semaine. Hein? Hop. C'est une semaine. Et puis c'est un mois qui passe. Hein? Hop là. C'est un mois qui est passé. Et c'est 6 mois qui ont passé. Et puis c'est... Waouh, on est déjà août. Et puis on continue. Tu te rends compte, chérie, on est déjà novembre. Vous avez remarqué une chose? C'est qu'à fur et à mesure que j'égrène mon calendrier, il est de plus en plus fin. Il y a de moins en moins de pages. Ça, c'est ta vie et c'est la mienne. Et tu n'arrêteras rien. Et je n'arrêterai rien. Ce soir, il y en a qui se disent, mais moi, je suis venu pour avoir la paix. Il est en train de me stresser, ce type-là, c'est pas possible. Je voudrais simplement vous rendre conscient. Comme la terre tourne sous vos pieds sans que vous ne vous en rendiez compte, ainsi passent les jours. Pendant que vous êtes debout, laisse, on le fera tout à l'heure, merci, t'es gentil. Pendant que vous êtes là, à votre place, le temps tourne. Pendant que nous sommes assis, la terre tourne. On s'en rend pas compte. Heureusement, sinon on aurait l'impression d'être sur un manège. Mais elle tourne. Ainsi tourne la vie et le temps. Jour après jour. Le psalmiste dit la chose suivante. Au psaume 89. « Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie, Et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme? Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Y en a-t-il un seul qui puisse vivre sans voir la mort? Aucun. Vous êtes riche? Vous la rencontrerez, la mort. Vous êtes pauvre? Vous la rencontrerez aussi. Vous êtes en bonne santé? Elle vous attend. Vous êtes malade? Elle vous attend également. Vous êtes noir? Vous êtes blanc? Vous êtes jaune? Vous êtes vert? Si vous êtes vert, c'est que vous êtes malade. Elle vous attend. Elle vous attend. Je sais, les femmes vivent un peu plus longtemps. Un peu plus longtemps. Quelqu'un disait, c'est normal, elles usent tellement les hommes que... Chateaubriand a dit la chose suivante. Tout nous ramène à quelque idée de la mort parce que cette idée est au fond de la vie. Faites ce que vous voulez. Nous sommes dans une société qui essaye d'un côté de fuir la réalité de la mort et de l'autre côté, on n'arrête pas de nous rassasier d'images de mort, de meurtre, d'assassinat. Des images violentes à la télévision. D'un côté, on la fuit. D'un côté, on se cache les choses. On se ment à soi-même. On fait tout pour rajeunir. On nous propose toutes sortes de crèmes. Puis on s'en met la crème anti-rides. Et quand la crème suffit plus, on tire la peau. Au stade où certains, quand ils sourient, eh bien, ils ont les pieds qui montent. Pourquoi? Parce qu'on fuit, cette image de la mort. On la fuit. À quelque part, elle nous angoisse. Elle nous terrorise. Alexandre Dumas avait une vision très, très pessimiste. Il dira, l'homme naît sans dents, sans cheveux et sans illusions, et il meurt sans dents, sans cheveux et sans illusions. Pauvre Alexandre. Pauvre Alexandre. Je n'ai pas d'illusion sur moi-même, ça c'est sûr, mais j'ai une espérance vivante. Il y a deux manières de l'envisager, le grand départ. Deux manières. De la manière la plus pessimiste, le jour où je quitte la terre, tout s'arrête. Mais j'aimerais vous dire que rien ne s'arrête. Le grand départ, eh bien c'est justement le moment où vous partirez pour l'éternité. Ce sera certainement le voyage le plus grand, le plus long que vous n'aurez jamais fait. Alors Jean de La Fontaine a une autre manière de voir les choses. Il dira, la mort ne surprend point le sage, il est toujours prêt à partir. La mort ne surprend point le sage, il est toujours prêt à partir. Il s'y prépare. Moïse, lui, dira la chose suivante au psaume 90, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Ça a été écrit il y a des milliers d'années. Les statistiques aujourd'hui en Europe donnent 83 ans pour les femmes et 73 ans pour les hommes. C'est fou ce que Moïse était inspiré. C'est fou ce qu'il était inspiré. Aujourd'hui, ce n'est pas plus. Ce n'est pas plus. 83 pour les femmes, 73 pour les hommes. Et puis, que dit-il? Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous envolons. Nous avions un grand-père à la maison jusqu'à l'âge de 93 ans. Il était avec nous. Et quand il me parlait de sa vie, pourtant 93 ans, c'est respectable, il me disait, ce n'est qu'un rêve. Samuel, ce n'est qu'un rêve. C'est déjà passé. C'est qu'un rêve. Ça a passé à une vitesse. C'est extraordinaire. Ce n'est qu'un rêve. Moïse dira à ce sujet-là, alors, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Imaginez que je vous vende une voiture dont le compteur est prédéterminé et qui, le jour où vous arrivez au dernier kilomètre, est hors d'usage. Imaginez que je vous vende une voiture qui fait 25 567 kilomètres et après, elle est fichue. Comment utiliseriez-vous cette voiture-là? Il y a une dame qui me fait... Ah, on l'utiliserait plus pour aller vite au supermarché à 30 mètres, hein? On réfléchirait. On ferait attention. Chaque fois qu'on l'utiliserait, on calculerait la nécessité. Est-ce que c'est vraiment impératif de l'utiliser? Parce qu'on voudrait l'utiliser sagement, intelligemment. C'est vite fait, 27 650 kilomètres. 567 kilomètres, non? Ou alors si je vous disais 29 220 kilomètres, vous me diriez, j'achète celle-là. Elle dure un peu plus longtemps. Mais je suis sûr que nous nous appliquerions chaque fois qu'on monterait dedans. Waouh! Fais attention! Est-ce qu'il te la faut vraiment, chérie? Est-ce que ce déplacement est nécessaire? Vous réfléchiriez. Vous ne gaspilleriez aucun mètre. Eh bien, ce que je vous ai traduit là en kilomètres, c'est simplement le nombre de vos jours si vous atteignez 70 ans. Si vous vivez 70 ans, vous vivez 25 567 jours. Hello. Ça passe vite une journée, vous trouvez pas? Il y en a qui deviennent franchement nerveux maintenant. Et s'il continue, je suis déjà cardiaque, ça va se finir ce soir pour moi. 29 220 jours, c'est le nombre de jours pour 80 années. C'est, franchement, quand vous entendez le chiffre comme ça, c'est pas beaucoup, hein? Nous, on a l'impression, oh, hot seat. Oh, get it. J'ai le temps. Pasteur, je m'occuperai de Dieu quand je serai à la retraite. Ah oui, parce que quelqu'un t'a dit que tu vas l'atteindre? Peut-être. Peut-être non. La voiture, si nous savions qu'au bout de ce kilométrage-là, elle s'arrêterait, nous y ferions attention. Mais nos vies, qu'en faisons-nous? Nos journées, qu'en faisons-nous? Combien de temps gaspillé? J'étais déjà avec des personnes malades. Elles me disaient, Samuel, si tu savais combien je regrette tout le temps que j'ai perdu à me disputer. Combien de temps perdu dans des tensions liées à de la jalousie. Combien de temps passé à envier les autres. Combien de temps passé à se disputer pour un héritage. Et on ne s'est plus jamais parlé dans la famille. Combien de temps perdu devant ce fichu téléviseur à regarder n'importe quoi. Alerte à Malibu. Mais c'est misérable. Vous n'avez même pas besoin de cerveau pour regarder ça. Même pas. Pas des heures. Combien d'heures passées là avec une bouteille à boire entre copains. Et à la fin, aujourd'hui j'ai entendu qu'ils ont attrapé un Bulgare. Il est où mon Émile? Avec 8 grammes par litre de sang. 8 grammes. Non, c'est pas Émile. N'allez pas. Je l'embête. Il est déjà tout rouge. 8 grammes par litre de sang. Moi, je suis sûr que celui qui a fait les analyses, il a dû se dire, c'est une blague. Ils ont piqué dans la barrique. On a trouvé un peu de sang dans l'alcool. Du temps perdu, une vie aussi précieuse, des journées aussi précieuses, gaspillées comme ça. Gaspillées à se pourrir la vie à cause d'un voisin qui n'agit pas comme vous le voulez, à cause d'un chef au travail. On passe son temps à tuer le temps. Regardez aujourd'hui, vous avez vu comme on nous occupe? On veille à ce que vous ne vous ennuyez jamais. En même temps, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Tout est programmé. Tout est fait que vous couriez au travail, vous rentrez, vous regardez les infos, vous repartez au travail, vous rentrez. Ensuite, il y a les activités, il y a le sport, il y a ceci, il y a cela. Vous courez constamment. Vous travaillez toute l'année. Vite, il faut partir en vacances. Même les vacances, c'est épuisant. Même les vacances. Souvent, je vois les gens revenir de vacances. Ils me disent, on s'est défoncé, je suis crevé. Ah bon, je croyais que c'était pour se reposer les vacances. Plus le temps de réfléchir, plus le temps de se poser la question, mais qu'est-ce que je fais sur Terre? Ça sert à quoi la vie? C'est juste pour user ce corps dans lequel je suis et inexorablement marcher vers la mort. C'est quoi la vie? C'est quoi le mode d'emploi? Vous savez, un jour un roi avait un fou qui l'amusait beaucoup, le fou du roi. Vous savez, ceux qui avaient les petits chapeaux là avec au bout les clochettes et... Hein? Fou du roi, Et puis il le faisait toujours rire, il l'amusait beaucoup. Et un jour le roi lui dit, « Fou, Le jour où tu trouveras plus fou que toi, je te donnerai mon sceptre d'or. Puis le fou était content. Il a continué à faire ses folies, amuser le roi. Et un jour, le roi l'appelle dans sa chambre. Et là, il est grave. Il est grave dans toute son attitude. Il dit, fou, on va se quitter. Je dis, c'est pas vrai. Mais qui vais-je amuser, sa majesté, si vous n'êtes plus là? Je vais partir pour un long voyage. Ah bon? Un très long voyage, un voyage comme jamais je n'en ai fait un. Alors le fou dit, mais majesté, où sont toutes vos victuailles? Où sont vos réserves? Où sont vos coffres? Où est votre argent pour le long voyage? Où sont vos vêtements? Et le roi, de le regarder, de lui dire, je ne m'y suis pas préparé. À ce moment-là, le fou le regarde et lui dit, roi, j'ai trouvé plus fou que moi. On se prépare à tout, sauf à cette échéance-là. Paul va faire un bilan. C'est mon deuxième point, le bilan. Et vous allez faire des bilans, tôt ou tard. Vous savez, quand on est couché sur un lit, qu'on est malade, on fait souvent le bilan. Quand parfois on est au fond du gouffre, on fait souvent le bilan. Ah, tant que ça roule, tant que ça court, on n'y pense pas. Mais tôt ou tard, faut passer à la caisse. Tôt ou tard. Et je peux vous l'assurer, je rencontre trop de gens pour savoir que c'est comme ça. Il dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé. J'ai préparé ce départ. Le roi est passé pour fou aux yeux du fou. Parce qu'il ne s'y était pas préparé. Et combien d'hommes, combien de femmes ne se préparent pas à ce qui est une certitude? Comme 1 + 1 = 2, vous partirez. Ce soir, je n'ai pas besoin d'être prophète. Je vous l'annonce, vous partirez. Alors, c'est étrange, parce que toute notre vie, nous nous préparons. On nous envoie à l'école pour nous préparer intellectuellement à la vie à venir. On fait des formations professionnelles pour nous préparer à notre futur métier. Et puis ensuite, nous préparons notre retraite en économisant, en versant dans une caisse. Une caisse qui... C'est une caisse. Mais elle a des fuites actuellement. Ça fait rien. On se dit, mais je serai retraité. Moi aussi, je cotise, je suis comme vous. Hein. Je cotise pour que Schneebelin Rémy puisse vivre. Et on est tous comme ça. Nous nous préparons donc, et c'est intelligent de le faire. Et puis nous préparons notre départ pour que le jour où nos enfants nous suivent, ils aient quelque chose. Nous préparons cela, mais paradoxalement, alors que la retraite c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je ne sais pas si je l'aurai. Peut-être que je partirai avant. Qu'importe. Mais une chose est sûre, c'est que le grand départ, celui-là, je ne raterai pas. Paradoxalement, les hommes, des femmes se préparent à tout, sauf à l'essentiel. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Tu ne sais pas quand ni comment. L'autre jour, j'ai un jeune homme de 19 ans. Il me dit, vous savez, pasteur, moi je sais qu'on peut partir vite. J'ai mon copain d'enfance, 19 ans. Il s'est couché le soir, le matin, quand sa maman voulait le réveiller. Il était mort. Il est parti. C'était fini. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Paul se retourne sur sa vie, fait le bilan et dit, ouais, j'ai combattu le bon combat, je ne me suis pas trompé, j'ai vécu la bonne vie, ce pourquoi je me suis donné, ça valait la peine. Quand on fait le bilan, que se passe-t-il? Permettez-moi simplement de vous parler courtement d'une femme très connue, Marlène Dietrich. J'étais en Allemagne, je lisais la Stuttgart Zeitung lorsqu'elle était décédée. Et puis le journaliste écrit la chose suivante. Il dit qu'il avait donc parlé avec Madame Dietrich, l'avait interviewée, elle avait 90 ans. Et lui avait dit, vous êtes une diva, vous êtes un sex symbole, vous êtes l'idole de millions de femmes, etc. Votre vie, c'est une réussite. Et elle lui répond, ach, ich kann das alles nicht mehr hören, nur noch Quatsch. En d'autres mots, si je devais le traduire un peu de manière très directe, elle dira, je ne peux plus entendre toutes ces conneries. Dites donc, quand vous êtes adulé par des millions de femmes, quand des millions de femmes vous envient pour devenir ce que vous êtes et que vous finissez votre vie en disant « tout ça c'est de la connerie », c'est que vous avez raté votre vie. On peut, aux yeux des hommes, réussir et aux yeux de Dieu, échouer. La parabole du riche et de Lazare. Le riche menait joyeuse et brillante vie, nous dit l'Écriture. Aux yeux des hommes, c'est lui qui réussissait. Lazare, le pauvre, il était sous la table, un chien venait même lécher ses ulcères. Lui, aux yeux de la société, c'était un raté. Mais quand le grand départ a eu lieu, c'est celui qui était considéré comme le raté, qui avait l'approbation de Dieu. L'autre sera séparé de lui pour l'éternité. Ami, ce soir, je voudrais pas qu'un jour vous vous retourniez en vous disant, mais quelle vie j'ai vécue. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais j'ai perdu toutes ces journées précieuses. Je les ai perdues à faire quoi? Je les ai perdues à me battre. Pourquoi? C'est quoi le combat de votre vie? Certains, le combat de leur vie, c'est leur carrière. Ma carrière. Et quand ils arrivent à la retraite, ils se suicident. Parce qu'on leur a enlevé leur raison d'exister. Ma carrière. Je dis pas qu'il faut pas que vous ayez une carrière, mais ça peut pas être la raison de vivre. D'autres, c'est leur maison. Pasteur, moi, je veux construire. Ça, c'est ma raison de vivre. Je l'ai fait de mes mains, toutes mes forces, ils y sont passées. J'avais un homme qui est venu me voir en pleurant, je vous promets, en pleurant. Il me disait, pasteur, j'ai 3 maisons, je les donnerais toutes si je pouvais avoir la paix. C'est quoi ton combat ce soir? Pourquoi tu te bats? Ah, moi je me bats pour élever mes enfants. C'est bien, c'est louable. Moi aussi je veux les élever mes enfants. Mais ça peut pas être le but final de ma vie. Parce que les enfants, une fois que tu les as élevés, ils s'envolent comme les oiseaux du nid. Et qu'est-ce qui te reste après? Non, Dieu nous a pas mis sur terre uniquement pour des projets à courte échéance. Vous êtes là. Et il vous donne une vision bien plus lointaine, bien plus profonde. Votre vie vaut beaucoup plus que simplement une petite existence sur terre. Vous vous battez, vous travaillez, vous suez, vous arrivez à la retraite, vous êtes usé, vous êtes fatigué. Je rencontrais un homme, il me disait, pasteur, je lui dis, vous faites quoi? Il me dit, je suis plus rien. Je dis, comment ça, vous n'êtes plus rien, vous êtes quand même vivant. Il me dit, je suis plus rien. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Il dit, j'étais capitaine dans l'armée. Je dis, c'est très bien, et alors? Il dit, bien, je suis plus rien maintenant, je suis retraité, je suis plus rien. Écoutez bien ce qu'il me dit après, c'est ça ce qui m'a fait mal. Il me dit, pasteur, il avait l'air jeune. Il me dit, ma seule occupation aujourd'hui, c'est de tuer le temps en attendant que le temps me tue. Eh bien, si c'est ça la perspective que vous avez, pauvre de vous. Dieu a autre chose en vue pour vous. Paul pourra dire, j'ai combattu le bon combat. T'as passé ta vie à te disputer avec ton mari? Te disputer avec ta femme? T'as passé ta vie à te... C'est à quoi que tu l'as passé ta vie? Ce soir, c'est quoi l'objectif? Pourquoi tu t'es battu? Pourquoi te battu? À quoi ça va te mener? Qu'est-ce qui va rester? Et toi, qu'est-ce que tu vas emmener? Paul dit aux Galates, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Si tu sèmes pour ici-bas, tu récolteras la corruption, parce qu'ici, tout se détruit, tout rouille, tout pourrit. Même moi un jour je pourrirai. Même moi. Ce corps n'est qu'une enveloppe. C'est qu'une enveloppe. L'apôtre Paul parle de ce corps comme d'une tente. Et il dit, si la tente dans laquelle nous nous trouvons, eh bien, se détruit, nous savons que nous avons une demeure. Cette tente se détruit. Mais une tente, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à héberger quelqu'un. J'aimerais vous annoncer ce soir que dans cette tente habite Samuel. Mais vous le voyez pas, Samuel. Vous voyez que la tente... Vous comprenez, si je parle pas de la tente et de l'oncle, la tente. La tente. Regarde ton voisin, tu le vois pas lui, tu vois que la tente. Alors il y a des petites tentes de camping, il y a des grandes tentes comme le frère Jean, une grande tente. Il y a des hautes tentes, des petites tentes. Mais Bernard, je vois pas Bernard, je vois que sa tente. C'est ça la réalité. Un jour, je quitte la tente. Samuel, le jour où Samuel est parti, c'est que je suis mort. Je suis parti. La tente a beau être là. J'ai vu des jeunes gens partir. 30 ans. Vous avez là un corps qui semble être en bonne santé, mais il est vide. Plus personne n'y habite. Ça, c'est la mort. Et la tente, elle retourne à la terre d'où elle a été tirée. Mais celui qui l'habite, lui, s'en va là où il a choisi d'aller. Je ne dis pas automatiquement vers Dieu parce que tout le monde n'ira pas vers Dieu. Vous choisissez. Elle dira, j'ai achevé la course. Me laissez-vous encore quelques minutes? 8 minutes il me reste. Ça y est, du coup c'est moi qui ai stressé. Il dit, j'ai achevé la course. C'est une chose de la commencer, c'en est une autre de la finir. Et je m'adresse aussi aux croyants, aux chrétiens qui sont là. Vous avez commencé la course. Il faut la continuer, il faut la terminer. Écoutez ce qu'il est dit. Jésus dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il dira également dans Matthieu 24, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera... Mais jusqu'à la fin, ce qui veut dire que certains ne persévèrent pas jusqu'à la fin. D'ailleurs, dans Jean 6, 66, c'est marrant ce verset, hein. Jean 6, 66, il est dit, plusieurs de ses disciples l'abandonnèrent. Justement ce verset-là, c'est intéressant. Jean 666. Plusieurs l'abandonnèrent, plusieurs ne... n'ont pas terminé la course. Ah, ils étaient feu et flamme, un peu comme dans la parabole des semences, vous voyez. Ils ont levé un peu, mais une épreuve, et puis, oh, puis ça sert à quoi Dieu, et puis j'en ai marre, et puis je fais ma vie. Non, non, il faut l'achever. Jésus dira, car il y a beaucoup d'appelés dans Matthieu 22, mais peu d'élus, beaucoup sont appelés, tous sont appelés. Mais peu persévèrent. Vous savez, pour achever la course, il faut être déterminé. Ces derniers temps, pour faire plaisir à mon épouse, j'essaye de me resculpter. Resculpter un corps qui était devenu mou. Et j'ai décidé de refaire du jogging, de courir. Mais c'était terrible. Alors les sportifs, ils rigolent. Mais moi, j'avais l'impression d'avoir 95 ans. Première course, j'ai couru. Mais au bout de 1,5 km, il a fallu que je fasse une pause. Et là, j'ai l'impression que les poumons allaient sortir. Et puis, je refaisais 1 km. Mon fils était avec, je lui disais, tu sais quoi, on pourrait faire une pause, hein? Hein? On va marcher. Et puis, chaque jour, enfin quand j'y allais, parce que là aussi le matin, quand le réveil sonne, 6 heures, il faut aller courir. Et ton épouse, elle est dans les draps en train de te regarder, au revoir chérie. C'est une lutte. Alors je suis retourné, et puis enfin j'arrivais à faire la moitié de mon trajet. Puis alors, je fallait pas me voir à la fin. C'est pour ça que j'allais tôt le matin, pour que personne ne me voie. Les seuls qui me voyaient sont les sangliers. Puis vous avez l'impression d'une locomotive qui passe. Puis enfin, je suis arrivé à faire l'aller-retour. Et puis maintenant, je peux faire mes 6, 7 kilomètres sans m'arrêter, mais ça a pris du temps. Je me suis dit, j'arriverai jamais. Jamais. Et j'ai compris, Seigneur, la course de la vie, il faut de l'endurance. Il faut se faire violence. Et c'est pourquoi que Jésus dit, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Non pas les violents au sens physique, dans le sens où envers ton voisin, ceux qui savent se discipliner, ceux qui savent dire, pour et malgré tout, j'irai. Et là, il dit, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. En d'autres mots, certains la perdent. Paul dira même que certains ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est quoi la foi? Et certains me disent, j'ai une religion. Jésus n'a pas dit qu'il faut garder sa religion. Non, il dit garder la foi. T'as une religion, t'as presque pas le choix. Tu viens au monde, t'en as une. Quelle qu'elle soit. Tu viens au monde, t'es comme ça, hop, tac, on te met un tampon. C'est comme ça. Non, il dit pas j'ai gardé ma religion, il dit j'ai gardé la foi. Jésus, s'adressant à certaines personnes, leur dira, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis. Vous savez, un tas de gens, ils disent je suis croyant, mais ils font rien de ce qu'ils prétendent être. Paul va plus loin. Paul dira, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Regardez-les vivre et vous verrez que leurs actes disent le contraire de leurs paroles. Ils se disent croyants, ça les empêche pas de tromper leur femme, d'escroquer le patron, d'escroquer les impôts, ça les empêche pas d'être vulgaires, ça les empêche pas d'être plongés dans la pornographie, mais ils se disent croyants. Et le jour des obsèques, c'est fou ce qu'on dit du bien sur eux. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, il faut mourir pour qu'on dise du bien de vous. Il y a que le jour où vous êtes mort, tout d'un coup vous êtes un homme merveilleux, qui a toujours aimé sa femme, même si la pauvre a passé des quarts d'heure pas possible. Là, tout d'un coup, vous devenez glorieux. Glorieux. Mais quel scandale. Quel mensonge. Parce que devant le trône de Dieu, nous serons tels que nous avons été. Tels que vous avez été, tels que j'ai été, nous le serons. Les hommes peuvent faire des éloges sur nous. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Écoutez ce qu'est la foi. 1 Pierre 1. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous ne l'avez pas encore vu, mais vous vous réjouissez déjà. Vous n'avez pas encore vu le ciel, mais vous savez que vous y allez. Et ça ne s'explique pas, c'est là. Je sais que Jésus m'a sauvé. J'ai de l'assurance. J'ai envie de dire comme l'apôtre Paul, je sais que j'ai combattu le bon combat. Moi, je suis content. Le papa Jean, parlez avec lui. Vous parlez un quart d'heure avec lui, vous avez envie de partir au ciel. Parlez avec lui. Il est content. Il me dit toujours, waouh, Samy, le meilleur est devant moi. Vous savez, pouvoir vieillir, arriver à 80 ans, plein d'enthousiasme, en se disant toujours, le meilleur est devant moi. Ça, c'est vieillir. Mais vieillir en regardant dans le rétroviseur, mais ça me fait mal au cœur. Je le caricature un peu, mais ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur de voir des gens vivre le présent en s'appuyant plus que sur le passé. Non, vous pouvez vieillir en vous disant, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. En disant, Seigneur, plus près de toi. Et votre foi vous motive alors à vivre chaque jour selon ce que Dieu attend de vous. C'est ça, la vraie religion. Elle vous met en relation avec Dieu et vous permet d'aimer votre prochain comme vous-même et d'aimer Dieu à la première place. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre place pour Dieu que la première. Ça se discute même pas. Écoutez, je suis sûr que si Monsieur Sarkozy venait chez moi à la maison, ce qui serait un grand honneur pour lui, non, pour moi, bien sûr. Mais je suis sûr qu'avec Dominique, on ne se poserait pas la question, est-ce qu'on va le mettre au fond du salon ou Non. La seule question qu'on se poserait, c'est comment pouvons-nous l'honorer de la meilleure manière possible? Voilà. C'est le président. On est d'accord ou pas d'accord. On aime ou on n'aime pas. C'est pas là le problème. C'est le président. On l'honore. La question n'est pas, est-ce qu'on va l'asseoir derrière? Tiens, on pourrait tous se mettre devant, on va le mettre derrière. Non. C'est comment pouvons-nous l'honorer? Mes amis, quand on parle de Dieu, on ne parle pas d'une deuxième place. Il peut qu'avoir la première. Il a ou la première place, ou il ne veut pas de place du tout chez vous. Hello? Désolé, c'est direct, mais c'est comme ça. C'est direct. Mais c'est comme ça. Dieu veut être le Dieu de tout ou pas le Dieu du tout. Le roi de tout ou pas le roi du tout. Je sais que parfois je dérange. Pardonnez-moi. Merci. Je termine. La récompense. Parce qu'il y a une récompense. Parce qu'il y a une fin. Parce que ça vaut la peine. Parce que quand Paul dit « j'ai combattu le bon combat », ça vaut la peine. Quand mon grand-père est parti, mon grand-père avait 93 ans. Vous savez, il habitait chez ma tante. Et d'ailleurs, ma cousine le voyait plus. Elle est là ce soir, elle le voyait plus que moi. Mais j'aimais aller le voir. Et chaque fois qu'on arrivait chez lui, quand j'arrivais chez lui, on entendait l'harmonium. Il avait un harmonium, vous savez, les à pédales. Lui, il louait et faisait le jogging en même temps. Il faisait les deux. Et chaque fois, on l'entendait louer le Seigneur. On l'entendait chanter. On rentrait dans sa chambre. S'il louait pas, il avait quelqu'un dans la chambre en train de consoler, en train de prier pour, en train... Et un matin, il est descendu chez ma tante. Et puis, il lui raconte un songe, quelque chose de beau. Il lui dit, j'ai vu un endroit merveilleux avec des gens que je ne connais pas. Mais c'était beau. Qu'est-ce que c'était beau. Et toute la matinée, il a parlé de ça, lui qui n'était pas un grand bavard. Mais il a parlé de ça. Et puis, à midi, ils ont mangé. Il a aidé à faire la vaisselle parce qu'il fallait toujours... Il aimait. Hein, ceux qui l'ont connu, il y en a quelques-uns qui l'ont connu, il aimait. Il était agriculteur à l'origine. Lui, dès qu'il pouvait gratter dans la terre, c'était sa joie. Et puis après, il pouvait plus gratter dans la terre, il grattait dans l'évier. Il fallait qu'il participe. Éplucher les carottes, tout ça. Et ce jour-là, il lui a aidé. Et à midi, à 14h, le coiffeur est venu pour lui couper les cheveux. Il se déplaçait plus, c'est le coiffeur qui venait. Et là, il a parlé au coiffeur de Jésus pendant une heure. Il lui a servi un café. Et puis, il lui a annoncé la bonne nouvelle de l'évangile. Et le coiffeur est parti. Et grand-père s'est assis dans le fauteuil et il est parti pour toujours. Ouais, ça c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Tu sais pourquoi t'es là, mais tu sais aussi où tu vas. Ça a du sens. Ça a du sens. T'es pas là en train de pleurer en te disant, je vais tout devoir quitter. Nous, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Et Dieu veut te proposer une chose, c'est que tu n'aies rien à perdre, mais tout à gagner. Qu'est-ce que ma maison? La terre tremble trois fois, elle est plus. Qu'est-ce que ma voiture? Qu'est-ce qu'une voiture? Quand je vois parfois les gens s'énerver à cause de leur voiture, si l'épouse fait une petite rayure, ça devient le drame de 15 jours. Mais c'est quoi? Tu sais, tu t'en rends compte le jour où l'épouse n'est plus là. Là, tu peux longtemps aller l'embrasser, ta caisse, hein? On se trompe de priorité. Nos meubles, j'arrive parfois chez les gens, les meubles. Touchez pas, hein. Ils sont stressés. Moi, j'avais une tante comme ça, hein. J'avais une tante comme ça, la sœur de ma mère. C'était mon oncle, pour ne pas salir dans la maison, il devait se mettre en slip sur le tapis devant la maison. Le drame pour moi, c'est qu'il le faisait. Il était maçon. Elle disait tout le temps, René, ne rentre pas de sable, René! Ils ont passé leur vie à se stresser avec le sable. Et l'autre pauvre type devant la porte en train d'enlever le pantalon pour rentrer dans l'appart, c'était... Attendez, ce soir, ça détend. Mais lui, ça l'a tendu, hein? Toutes les semaines, le même rituel. Tirer le frigidaire, tirer le congélateur, tirer la cuisinière, briquet devant, derrière, en dessous, au-dessus. Moi, je sais quand j'arrivais parfois chez elle, dès que t'arrivais, elle regardait les chaussures. Ta-na-na-na. C'était welcome dehors. Eh bien, je vais vous dire une chose. Un jour, elle a reçu Jésus dans son cœur. Ma tante a été touchée par le Seigneur. Elle a reçu Jésus dans son cœur. Et elle dira plus tard, si seulement j'avais connu Jésus plus tôt. Avant, je passais mon dimanche à nettoyer la maison, tout le dimanche. Les vitres. Elle aurait dû avoir du triple vitrage, elle l'a usé le vitrage. Elle dira, mais comment ai-je pu être comme ça? Et puis elle va découvrir Jésus et toutes ces choses qui étaient tellement essentielles sont devenues totalement secondaires. Je ne dis pas le fait que ce soit sale, ce soit spirituel. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça de grâce, sœur, continuez à nettoyer. Mais vous ne vivez pas que pour ça. Vous n'êtes pas né avec une serpillière. Dieu a un autre plan pour vous. C'est comme les hommes, toute leur vie c'est le jardin, les rangées. Tu peux aller, tu te mets par terre, tu regardes les rangées d'oignons, mais elles sont au garde à vous, on dirait qu'ils ont fait l'armée les oignons. Ils passent leur vie à ça, c'est, tout est là, les oignons, les haricots, et puis après leur gloire, c'est le jardin. Vous savez, vous avez les maisons fleuries, hein, et maintenant on donne même des médailles pour les maisons fleuries. Vous avez des gens, ils passent leur vie, ils dépensent des fortunes. Et par malheur, on décerne le prix à quelqu'un d'autre. Ben, le propriétaire, il flétrit avec les fleurs. Tellement ça le... Ne vous trompez pas d'objectif. Dieu a quelque chose de bon et de grand pour vous. Mes amis, Paul dira, et ce sera ma conclusion, l'athlète n'est pas combattu s'il n'a combattu suivant les règles. Si vous ne combattez pas suivant les règles, vous ne gagnerez pas. Quelles sont les règles? Dieu nous dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, tous. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Qui que vous soyez, quoi que vous vous imaginiez à votre propre sujet, j'aimerais vous dire que la Bible déclare qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont coupables. Première règle, réalisez que je le suis. Deuxième, face à cela, Pierre dit, repentez-vous et convertissez-vous. Il n'est pas dit repentez-vous et changez de religion, convertissez-vous. C'est quoi la conversion? C'est un demi-tour. C'est je passe des ténèbres à la lumière, je passe d'une vie sans Dieu à une vie avec Dieu, où il est au centre, où je le suis, où j'ai compris qu'il a pour moi lui plus que tout ce que je ne pourrais avoir ici-bas. Repentez-vous, c'est un changement de mentalité. Recevez, et ça fait partie de la règle du combat, celui qui seul peut vous sauver. Le Père aime le Fils dans Jean 3, 35, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et Pierre dira, dans le livre des Actes, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus. C'est le seul moyen. Vous ne pouvez pas vous préparer au grand départ si vous n'avez pas celui qui vous garantit la traversée. Et celui qui garantit la traversée, c'est Jésus. Et il est là ce soir. Et pendant que mon frère Bernard vient au clavier, je voudrais inviter les chrétiens également à réfléchir sur leur propre vie et à se rappeler que être chrétien, c'est agir. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Dans Jean 14, il est dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Pendant que mon frère simplement commence le chant qu'il a à cœur, fermons nos yeux. Le jour où vous partirez, ami, et le jour où je partirai, dû être ce soir, cette nuit, demain, peu importe, écoutez, devant le trône de Dieu, la règle de la semence et de la moisson sera de rigueur. L'apôtre Paul dit aux Galates, alors que nos yeux sont fermés, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, c'est-à-dire pour la terre, uniquement pour ces choses d'en bas, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en haut temps convenable. Et vous qui semez depuis des années, vous croyants qui êtes engagés, qui vous donnez beaucoup de peine, qui aimez le Seigneur, qui le servez avec joie, malgré parfois les déceptions, vous moissonnerez la vie éternelle. Ne vous découragez pas. Ne vous lassez pas de faire le bien. Vous moissonnerez au temps convenable. Ne vous relâchez pas, frère. Ainsi dit Paul, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères. En la foi, Jésus dira, On vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. Et mon plus grand vœu et mon plus grand souhait, à commencer par ma propre vie, celle de ma femme, de mes enfants, de vous-même, c'est que le jour où nous arrivons là-bas, ils nous disent, notre sauveur et notre maître, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Ce soir, j'ai une question. Êtes-vous prêt pour le grand départ? Êtes-vous prêt ce soir? Ne me dites pas j'ai le temps. Ne me dites pas demain. Quelqu'un disait, la route demain mène à la ville jamais. Demain, tu ne sais pas si tu seras là, et moi non plus. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pourquoi te bats-tu? Quel est le sens de ta vie? Quel est le combat de ta vie? Ce soir, veux-tu remporter la course? Ce soir, veux-tu franchir en vainqueur la ligne d'arrivée? Veux-tu recevoir la couronne de justice que le juste juge te donnera, comme l'apôtre Paul pouvait le dire? Et il dira non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Le veux-tu? Alors il te faut combattre selon les règles. Tu ne peux sans recevoir Jésus. Il a quitté son ciel de gloire. Il est venu sur terre. Il est mort pour vous et pour moi, afin que nos péchés nous soient pardonnés et que nous expions, que nos fautes nous soient expiées. En Dieu, il n'y a point de ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Par Christ, nous recevons la vie et la lumière. Il nous lave. Pendant que nos yeux sont fermés, si quelqu'un dit ce soir, moi je veux franchir la ligne. Je veux recevoir Jésus. Je veux que ma vie ait un sens. Je veux pas me tromper de combat. Je veux combattre le bon combat. Je veux savoir pourquoi je vis. Je veux que ma vie ait un sens. Je crois que ma vie va au-delà de cette dernière étape qu'est la mort. La mort est un passage. Je passe de la vie sur terre à la vie dans l'éternité. C'est qu'une interruption entre une manière de vivre sur une planète et la découverte d'une autre dimension.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.